Alors, on va commencer par Juges, chapitre 1, les versets 1 à 7. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. On va passer au verset 12 et 13 de ce même chapitre. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath-Zéphér et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. On va lire au verset 19 et 24, toujours du même chapitre. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'il avait des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. On passe au verset 29. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Guézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Guézer. Ensuite, le verset 32. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Et le verset 34. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. On va lire le chapitre 2 maintenant, les versets 1 à 5. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Alors, lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons lire Éphésiens 6, les versets 12 et 13. Éphésiens 6, les versets 12 et 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Les Israélites ne pouvaient pas vaincre par leur propre force des armées mieux entraînées, composées de géants, ayant des machines de guerre qu'ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas. Eh bien, de même, nous ne pouvons pas saisir le sens véritable de la parole de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Nous ouvrons donc la Bible aujourd'hui avec la même foi et la même attente de l'action de Dieu que les Israélites qui allaient accomplir le jugement de Dieu. C'est la même foi, parce que c'est la même œuvre. Et ma prière, c'est vraiment, ô Éternel, ouvre les yeux de nos cœurs pour voir ton enseignement dans ce livre des juges. C'est ma prière. Qu'il éclaire nos cœurs. L'histoire de Samson, de Gédéon, ou peut-être celle de Déborah, sont connues. Mais si je vous parle d'Othniel, d'Abimélec, de Jephthé, des idolâtres danites ou des pervers benjaminites, ce sont des histoires qui sont ni très connues, ni très attirantes, et ni compréhensibles pour notre époque. Le livre des juges n'est pas un livre facile, ni attrayant, parce que c'est un livre qui ne fait aucune concession et qui décrit le péché de façon explicite et repoussante. Voilà ce que fait le livre des juges. Et pourtant, le livre des juges tient une place importante dans le déroulement du plan divin. Le livre des juges manifeste le besoin d'un sauveur parfait. Il y a plein de petits sauveurs, si vous voulez, dans ce livre des juges, mais qui manifeste le besoin d'un sauveur parfait, d'un roi aimant et droit. Et nous indique la souveraineté de Dieu malgré la profondeur et l'horreur du péché. Voilà ce que fait le livre des juges. Je vais juste relire cette phrase qui condense un petit peu. Donc le livre des juges manifeste le besoin d'un sauveur parfait, d'un roi aimant et droit, et nous indique la souveraineté de Dieu malgré les profondeurs et l'horreur du péché. Et c'est vrai que ce livre s'adresse particulièrement au peuple de Dieu, sous l'alliance de Dieu, qui est invité à la sainteté par son peuple. Alors si quelqu'un pense, je ne sais pas si quelqu'un pense ici à ça, mais si quelqu'un pense qu'il est possible d'être trop saint, eh bien le livre des juges va l'aider à comprendre que la moindre infidélité conduit à l'impiété et qu'il n'est pas possible d'être trop saint. Ce n'est pas possible d'être trop saint. Comme les mathématiques nous permettent de le comprendre. La sainteté est représentée par des chiffres positifs et le péché par des chiffres négatifs. Vous pouvez mettre tous les chiffres positifs ensemble, même les plus astronomiques, jamais vous n'arriverez à du négatif. Il n'est pas possible d'être trop saint, de trop obéir à Dieu, de trop s'éloigner du péché. Ce qui est possible, c'est de faire des choses que Dieu ne demande pas, ou de ne pas faire ce que Dieu demande, ou de mettre des lois que Dieu n'a pas données. Mais cet état-là que certains appellent sainteté n'est pas biblique. Et le livre des juges est un livre qui montre la catastrophe d'une vie non radicale dans l'obéissance de Dieu. Le livre des juges nous montre la catastrophe d'une vie non radicale dans l'obéissance de Dieu. Vous savez, le livre des juges, c'est juste après la sortie d'Égypte. Dieu opère une libération de l'esclavage, il donne un pays ruisselant de richesses, et ne pas agir comme il le demande, c'est se priver des bienfaits et vivre sous l'oppression. Vous voyez, il a sorti le peuple d'Égypte. Dieu opère une libération de l'esclavage, il donne un pays ruisselant de richesses, mais ne pas agir comme il le demande, c'est se priver des bienfaits et vivre sous l'oppression. Alors, nous n'allons pas commencer cette série les juges par une prédication complète d'introduction avant d'entrer dans le texte. Nous allons en fait laisser le livre lui-même s'introduire. D'ailleurs, nous trouvons deux introductions dans le livre des juges. La première introduction, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 5, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui nous décrit la situation du temps des juges. Et la seconde, qui est du chapitre 2, verset 6, jusqu'au chapitre 3, verset 6, qui nous indique le cycle que nous retrouvons dans le livre des juges. Ça, nous le verrons une prochaine fois. Petite remarque encore en passant, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, on n'a pas lu tout le texte. Et d'ailleurs, parfois, il y aura peut-être un, deux chapitres. Ça fait un peu long de les lire avant la prédication. Donc, je vous encourage vraiment à les lire avant de venir, en fait. Et généralement, je les mentionnerai à la fin de la prédication, que vous sachiez, ou dans les annonces, comme on l'a fait dimanche passé, pour que vous sachiez quel texte vous pouvez lire à l'avance. Parce que c'est vrai qu'en lisant que les textes qu'on a entendus aujourd'hui, si vous n'avez pas le tout, il y a quelques éléments qui manquent. Donc, je vous encourage à les lire, pour être un petit peu imprégné, déjà un peu réfléchir de qu'est-ce que Dieu peut nous dire dans ces textes. Nous allons donc aujourd'hui commencer par la description de la situation du temps des juges. Et nous verrons trois choses ensemble. Le premier, c'est le sujet de la conquête. Voilà, c'est un sujet qui revient ici, cette conquête. On va en parler un peu, c'est important, peut-être un peu beaucoup même. On est dans ce contexte-là. Puis c'est un sujet qui souvent fait un peu... est difficile. Donc on va l'aborder. Ensuite, nous verrons que nous passons du meilleur au pire dans ce texte. Et nous terminerons par la clé du passage qui nous permet de voir tout cela du point de vue de Dieu. Voilà le menu de ce matin. Donc la conquête. Si on situe le livre des juges dans l'histoire, il y a maintenant... Donc ça va les juges, vous arrivez ? Non, je vais vous aider. Le livre des juges, donc, il y a déjà eu deux événements impressionnants qui ont manifesté le jugement de Dieu avant le livre des juges. Le premier, c'est le déluge. Le déluge s'est passé avant le livre des juges et Dieu a puni de mort tous les hommes qui ne se sont pas repentis malgré la prédication de Noé. Un jugement universel. Le deuxième événement historique, c'est la destruction de Sodome et Gomorre, où Dieu a puni de mort les habitants de ces villes malgré la présence de Lot et même la venue des anges. Ces deux événements, le déluge et la destruction de Sodome et Gomorre, étaient mondialement connus. Et le deuxième était particulièrement proche des peuples cananéens. Ce sont des jugements ponctuels qui marquent les esprits et annoncent en fait un jugement global. Dans le Nouveau Testament, on voit dans le début de certaines parties de l'histoire, Dieu marque les débuts. Dans le Nouveau Testament, on a l'exemple d'Ananias et Saphira dans Acte 5, qui nous montre un jugement de Dieu. C'est un avertissement, en fait. Parce que si Dieu jugeait tout le monde, tout le temps, comme il le fait lors des avertissements, on serait déjà tous jugés et tous morts. Ce sont des avertissements. Il faut bien comprendre que la conquête de Canaan n'est pas une guerre ethnique, mais un jugement. Ça, c'est un élément fondamental. La conquête de Canaan n'est pas une guerre ethnique, c'est un jugement de Dieu. Et avoir une grande pitié, une sensibilité exacerbée pour ce qu'on appelle facilement les pauvres cananéens, c'est ne connaître ni ses peuples, ni Dieu. Celui qui ne comprend pas l'horreur que Dieu face a au péché des cananéens, ne comprend pas l'horreur que Dieu a face à son propre péché dans sa vie. Nous sommes sous le même jugement que les Cananéens et le subirons si un juste ne paye pas à notre place. Dieu ne donne pas le pays promis aux Hébreux parce qu'il serait meilleur que les autres. Mais il le dit même clairement et avec insistance. Je vais vous le prouver, regardez dans Deutéronome. Deutéronome 9, versets 4 à 6. Donc il leur parle de quand ils arriveront en Canaan. « Lorsque l'Éternel ton Dieu les repoussera devant toi, ne dis pas en ton cœur, « C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. » C'est à cause de la méchanceté de ces nations. Verset 5. « Non, ce n'est pas à cause de ta justice. » Il insiste, « Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. » Mais à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour confirmer les paroles que l'Éternel a jurées à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Verset 6. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice. Il insiste vraiment là. Ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession. Car tu es un peuple à la nuque raide. Ce n'est pas à cause de la justice du peuple hébreu. c'est que la méchanceté de ces peuples est arrivée à son apogée. Et Dieu les juge comme il a jugé le monde lors du déluge, et comme il a jugé Sodome et Gomorre, et comme il jugera lors du jugement dernier. Seulement avec les Cananéens, il n'intervient pas totalement seul dans l'application du jugement. Il implique le peuple hébreu qui est appelé à vivre de manière sainte. Et rappelons-nous aussi que Dieu a dit à son peuple qu'il subirait le même sort s'il se tournait vers les idoles et commettait le mal exercé par ceux qui étaient sous le jugement. Pourtant, saisir ça. Dieu a dit à son peuple qu'il subirait le même sort s'il se tournait vers les idoles et commettait le mal exercé par ceux qui étaient sous le jugement. Et la repentance des Cananéens était possible. Je ne vais pas pouvoir prendre le temps maintenant de vous l'expliquer en long et en large, je le ferai volontiers si vous avez besoin de cela, mais vous avez l'exemple de Rahab qui a reconnu que l'Éternel était Dieu, et comme elle l'a reconnu, elle a été sauvée avec sa famille, et elle fait même partie d'ailleurs de la descendance de Jésus-Christ. Par contre, tous ceux qui ne se détournaient pas des idoles, tous ceux qui pouvaient influencer le peuple de Dieu de retourner vers les idoles, devaient être détruits. Comprenez bien, cette conquête n'est pas premièrement un acte militaire, mais une chirurgie spirituelle pour ôter le cancer qui détruit toute créature de Dieu. Dieu lui-même a promis de combattre pour éliminer les adorateurs d'idoles. Exode 23, on dit, où il est très clairement averti de ne pas faire alliance avec des adorateurs d'idoles. Nous ne pouvons pas lire tous les nombreux textes qui en parlent, mais je vais en lire un avec vous qui est très explicite. À nouveau dans Deutéronome, au chapitre 7. Vous pouvez donc prendre vos Bibles dans Deutéronome, chapitre 7, verset 1. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. » Car ils écarteraient de moi, tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Akéra, et vous brûlerez au feu leurs statues. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que Dieu s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui et il lui rend directement son dû. » Dieu ne rigole pas avec le péché. Et le livre des Juges nous montre que le peuple de Dieu n'a pas souvent pris cela au sérieux ou de façon radicale jusqu'au bout. C'est pourquoi nous allons devoir affronter des situations, je crois qu'on peut le dire, abjectes et dégoûtantes dans le livre des Juges. Ce sont les conséquences du péché. Le livre de Josué, qui précède celui des Juges, nous parle de la conquête en termes de victoire. C'est le début de l'entrée dans le pays promis, où de grandes résistances sont abattues. On abat les résistances. Ce sont des combats intenses, rapides, qui permettent une ouverture pour briser la résistance, afin que le peuple ensuite termine la prise de possession. Alors cette conquête n'a rien à voir avec une vengeance. Ces peuples n'avaient rien fait à Israël. Ils ne les connaissaient pas. Et ce n'est pas un attrait économique, puisqu'en fait, ils ne devaient pas piller, mais détruire. C'est un jugement. Un combat contre des influences spirituelles néfastes. Pour vous montrer l'état des peuples cananéens, je pourrais lire avec vous plusieurs textes dans la Bible, comme dans Lévitique 18 qui indique les actes horribles commis, ou même dans Lévitique 20-23 où il est dit que Dieu lui-même en a été dégoûté. Mais on va prendre une illustration qui est dans Juges 1. puisque Juge 1 nous montre une illustration. Vous avez entendu tout à l'heure, au verset 7, il est parlé de, ou depuis même avant, il est parlé d'Adoni-Bézek. Adoni-Bézek, c'est un roi puissant et cruel. Il est dit en fait qu'il y avait des dizaines de personnes, c'est d'imaginer, des dizaines de personnes qui rampaient sous sa table, à qui il avait coupé les pouces des mains et des pieds. Il devait ramasser les miettes sans les pouces, les mains et les pieds. On coupait les pouces pour qu'ils ne puissent pas utiliser d'armes, et puis les pieds pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, hein, les pouces des pieds. Un pauvre petit Cananéen que les Israélites sont venus déranger? Non, un homme cruel, qui faisait sa propre loi, et qui ne se préoccupait pas de son Créateur. Un pécheur confirmé, qui lui-même dit qu'il mérite le jugement qu'il reçoit. C'est ça les Cananéens. La conquête est un jugement de Dieu sur un peuple notoirement pécheur, qui refuse obstinément de se repentir. Et j'espère que cette vérité est claire pour chacun de vous. Parce que ça, c'est souvent le problème avec cette conquête de Canaan. Si on n'est pas conscient de cette notion que c'est un jugement de Dieu face à des pécheurs qui ne veulent pas se repentir, on ne comprend pas cette conquête. Puis je ne la comprendrai pas non plus d'ailleurs. Avant de réfléchir à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, j'aimerais juste faire une petite remarque avec cet Adoni-Bézek. En fait, cette histoire d'Adoni-Bézek nous donne le premier bémol de la conquête de Canaan. C'est-à-dire une première chose où le peuple n'a pas fait tout à fait ce que Dieu avait demandé. En fait, Dieu avait demandé la mise à mort des pécheurs, point. Qu'est-ce que le peuple a fait ici? Ils ont coupé les pouces des mains et des orteils à Adoni-Bézek. C'est pas ce qu'il devait faire. Le peuple n'a pas exécuté le jugement que Dieu a demandé, il est devenu juge lui-même pour définir la sentence. C'est un dérapage qui, malheureusement, on verra plus tard, qui est allé très très loin. Cela nous indique déjà l'importance d'appliquer de ce que Dieu demande, ni plus ni moins. Il est clair et évident, ça alors comprenez-le bien, que l'application de la conquête aujourd'hui ne concerne pas une guerre contre une nation. Si quelqu'un utilise ces textes de la conquête aujourd'hui, actuellement, pour aller conquérir une nation, ben c'est qu'il n'a pas lu toute la Bible. C'est qu'il n'a pas compris que la Bible est une révélation progressive et que nous sommes actuellement dans une situation où il y a eu des éléments qui nous ont été donnés qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Il est clair et évident que l'application de la conquête aujourd'hui ne concerne pas une guerre contre une nation. Et le Nouveau Testament, qui éclaire notre compréhension, nous indique clairement qui sont les ennemis. Vous le savez déjà, on a lu le texte d'Éphésiens tout à l'heure, on va le relire. Éphésiens 6, versets 12 et 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est bon? C'est pas contre des nations. C'est pas contre des personnes qu'on voudra aller éliminer. Ça, c'est des guerres ethniques actuellement. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Ça n'a même rien à voir avec le jugement de la conquête dans l'Ancien Testament. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous des armes ou prenez toujours les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre conquête, nos Cananéens, ce sont les péchés, les mauvaises habitudes, le mal en nous. Ça, c'est nos Cananéens, les amis. Notre conquête, nos Cananéens, ce sont les péchés, les mauvaises habitudes, le mal en nous. Ceux que John Bunyan appelle les diabolistes, dans son allégorie de la guerre sainte, qui nous parle de la guerre vécue par la ville âme humaine, appelée aussi immortelle. Une ville qui s'appelle âme humaine, c'est nous évidemment, et donc dans laquelle il y a des diabolistes. Nous ne devons avoir aucune pitié pour ces coquins qui ne veulent que le mal, même quand ils sont déguisés en anges de lumière. Ils ne veulent que le mal. Je vais vous nommer quelques personnages illustres de ces diabolistes qu'il ne faut pas hésiter à mettre à mort. Beaucoup sont d'ailleurs gradés dans l'armée ennemie. Il y a monsieur incrédule, monsieur ingrat, monsieur préjugé, ou encore monsieur menteur, monsieur sans pitié, monsieur hautain, monsieur disciple bien, monsieur railleur, monsieur plaisir de la chair, monsieur tromperie, monsieur cupidité, monsieur impudicité, monsieur convoitise, monsieur cœur dur, monsieur fausse paix, et le terrible monsieur Sécurité Charnelle. Sans parler de toutes les femmes et les enfants. Hein, et même sans vous parler de l'armée des douteurs. Les douteurs d'élection, les douteurs de vocation, les douteurs de grâce, les douteurs de persévérance, les douteurs de résurrection, les douteurs du salut, les douteurs de gloire. Des armées entières, toutes au service de Diabolos et de ses officiers, de ses capitaines, dont voici quelques spécimens. Le capitaine Rage, Furie, Damnation, Insatiable, Tourment, Sans Repos, Espérance Perdue, Lucifer et les autres. Mes chers frères et sœurs, c'est dans cette guerre-là que nous sommes engagés. C'est la conquête que nous sommes appelés à mener. Ce sont ces ennemis-là que nous sommes appelés à mettre à mort. Vous savez, Christ nous a sortis du pays d'Égypte, de l'esclavage du péché, par son œuvre de rédemption. Et il nous a amenés dans le pays promis de la vie chrétienne, dont nous sommes appelés à prendre possession. Bon, j'aimerais prendre du temps avec vous pour réfléchir sur les armes du chrétien qu'on est appelé à utiliser. Car c'est important d'y réfléchir. Mais bon, d'avancer dans le texte des juges, je vais quand même vous les lire, parce que c'est bien de les avoir en tête, et je vous encourage de les reprendre, peut-être cet après-midi, puis de vous dire, mais comment est-ce que je peux vivre ces armes spirituelles dans la pratique? Maintenant, là. Ok? Mais je vais les relire déjà. C'est dans Éphésiens 6, les versets 14 à 18. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà, vous pourrez réfléchir, comment est-ce que je peux vivre ça? Comment vivre dans la vérité? Pratiquement. Tous les jours. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Voilà les armes à utiliser. Et quand Dieu dit que ces armes sont efficaces, elles le sont. C'est certain. Revenons aux juges. Les Israélites devaient prendre possession du pays. Josué avait conduit le peuple à ouvrir la porte du pays et à affaiblir les peuples qui devaient être mis à mort par le jugement de Dieu. Qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Qu'ont-ils fait? C'est notre deuxième point qui en parle. Du meilleur au pire. Ce premier chapitre des juges est comme une revue de presse, en fait. Vous avez près de 20 événements qui sont rapportés dans de très courts articles qui parfois font qu'un ou deux versets. C'est un peu un 20 minutes. Plein de petits articles, un ou deux versets. C'est ça, en fait, le premier chapitre de juges, mis à part la qualité, évidemment. Juges nous montre que Judas semble avoir bien commencé. Chaque combat est gagné. Il n'est pas gagné parce qu'ils sont plus forts, il n'est pas gagné parce qu'ils sont meilleurs. Hein. On le saisit maintenant, hein. C'est parce que c'est Dieu qui a donné la victoire. Mais ils y sont allés et ils ont gagné. Caleb, Othniel sont de bons exemples à suivre. Les Kéniens et Aksa, d'ailleurs, désirent vivre dans le pays promis. Là, c'est bon. Mais le verset 19 introduit un premier bémol. Regardez avec moi le verset 19. Il est dit, l'Éternel fut avec Judas qui se rendit maître de la montagne. Tout va bien. Mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Oh, le journaliste donne bien une excuse ici. Hein? Il y avait des chars de fer. Mais est-ce que c'est une bonne excuse? Je vais vous lire Josué 17, les versets 16 à 18, qui dit ceci. Les fils de Joseph dirent, ils vont parler à Josué, la montagne ne nous suffit pas. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, ceux qui sont à Beth-Shéan et ses dépendances et ceux qui sont dans la vallée de Jisréel. Josué dit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, tu es un peuple nombreux et ta force est grande. Tu n'auras pas un simple lot. Mais tu auras la montagne, même si c'est une forêt, tu la déboiseras et en tireras profit. Tu déposeras derrière les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. On verra du temps de Déborah, un peu plus tard, que les chars de fer, ce n'est pas une affaire pour Dieu. On se souvient même de la sortie d'Égypte, où les Égyptiens sont venus avec leurs chars. On sait ce qui s'est passé. Dieu les engloutit. Ce n'est pas un problème. Pour les Hébreux, c'est clair, c'est un problème, évidemment, mais pas pour Dieu. Et le bémol ici donné au verset 19, dans liste de l'historien, de la conquête de la tribu de Juda, indique un problème mais ne l'explique pas vraiment. Il parle des chars de fer, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Parce qu'en fait, c'est le début du chapitre 2 qui nous permettra de comprendre pourquoi la conquête n'a pas été vécue totalement. Alors ce bémol de Judas, c'est le début d'une dégringolade, parce que dès le verset 21, c'est la dégringolade. Alors qu'il était précédemment question de victoire, dès le verset 21, pour toutes les tribus du Nord, un refrain revient sans cesse. Ils ne dépossédèrent pas. Enfin, je devrais le faire 6 fois pour que ça soit le bon nombre. Il y a une septième fois avec Judas. 7 fois, pour montrer une totalité. Ils ne dépossédèrent pas. D'abord, nous voyons que la maison de Joseph, puis vous verrez, ça se fait petit à petit. Hein. La maison de Joseph autorise un Cananéen qui ne s'est pas détourné des idoles, qui est sous le jugement de Dieu, à vivre à distance. Et lui, il va reconstruire une ville, la ville de Luz. Hein. C'est celui qui les a fait entrer dans Bethel, là. Puis lui, il peut partir. Mais il n'a pas reconnu l'Éternel. Il continue à être idolâtre. Il a reconstruit une ville idolâtre. Chez Manassé, nous voyons que les Cananéens veulent rester. Une fois plus fort, c'est vrai, les Manassé utilise ses condamnés à mort comme serviteurs. Sympa. Ils vont chercher notre bois, etc. C'est pas ce que Dieu a demandé. Chez Ephraïm, Zabulon et Nephtali, les Cananéens habitent parmi eux. Chez Azer, c'est pire. Il est dit que ce sont les Azérites qui vivent au milieu des Cananéens. Ce n'est plus les Cananéens qui vivent au milieu des Israélites, c'est la tribu Aser qui vivent au milieu des Cananéens. Et pire encore, on voit que les Danites sont quelque part autorisés par les Cananéens à vivre à distance. Et il n'est plus question de la frontière des tribus d'Israël, mais de la frontière des Amoréens. Quelle rétrogradation! Quelle régression! Un peuple qui devait exercer le jugement de Dieu et prendre possession de ce bon pays. Un peuple qui devait exercer le jugement et dominer ses adversaires par la puissance de Dieu devient un peuple dominé à cause de son infidélité. Un peuple qui devait exercer le jugement de Dieu, dominer ses adversaires par la puissance de Dieu devient un peuple dominé à cause de son infidélité. Certaines tribus sont même jetées hors leurs frontières. Alors rappelez-vous bien, c'est l'introduction à Juges. Ça veut dire que dans tout le livre de Juges, on est dans la situation décrite ici. Okay? C'est important, ça nous introduit dans ce livre. C'est-à-dire quand on parlera des différents juges, en fait, c'est cette situation dans laquelle on est. Et qui n'est pas exactement la même dans tout le pays. Vous savez, laisser volontairement un peu de cancer, ne pas enlever toutes les cellules touchées, c'est du suicide. Si volontairement on ne l'enlève pas, c'est comme si, en fait, on ne voulait pas enlever toute trace de toxine botulique. J'étais cherché, je voulais savoir quel était le poison le plus puissant qui existe au niveau naturel. Et bien, c'est la toxine botulique, le poison le plus mortel au monde. Et il suffit d'un millionième de gramme pour causer la mort. Donc le fait de ne pas tout enlever, ce poison, c'est suicidaire. Mais c'est la même chose à Canaan. C'est la même chose dans notre Canaan. Laisser un fruit pourri avec des bons fruits, et petit à petit, toute la récolte est perdue. Comme la rouille qu'on laisse. Ben, petit à petit, ça ronge. Vous savez, le combat contre le péché est radical. Il n'y a pas d'exception, pas de sentimentalisme, de sensiblerie face au péché. Même s'il se présente sur le meilleur jour, comme par exemple cupidité qui se fait appeler économe. Ou impudicité qui se fait appeler joie innocente. Ou encore colère qui se fait appeler zélé. Non, non, il faut les reconnaître et les battre. Oh, puis ils se présentent comme des petits enfants innocents. Des petits péchés mignons, vous avez déjà entendu ça? On comprend mieux cette notion que les Israélites devaient éliminer tout le monde. Du plus petit au plus grand. Quand on commence à connaître ces petits péchés mignons, ce genre de choses. Et qu'on comprend quelle est notre guerre spirituelle. Si nous connaissons un petit péché dans notre vie, il ne faut pas chercher à l'asservir, c'est-à-dire à l'utiliser pour notre service. Non, il faut être radical, il faut s'en séparer, il faut l'éliminer. Un petit compromis en amène un autre et nous amène petit à petit à être totalement dominé. On le voit avec le peuple d'Israël. Réfléchissez à toutes les situations dans vos vies, à tous les domaines. Ça peut être un domaine relationnel. Est-ce que... Nos relations avec nos frères et sœurs en Christ sont paisibles, chaleureuses, fraternelles. Hein? On peut se dire, est-ce que je peux inviter tous mes frères et sœurs sans appréhension. Si vous pouvez le faire, génial. Si vous ne pouvez pas le faire, ben, faut peut-être aller commencer à aller dans votre ville âme humaine et puis aller chercher les diabolistes et les éliminer. Oh, vous direz peut-être, mais je n'y arrive pas, c'est trop difficile, ils ont des chars de fer. Ben, allons voir ce que Dieu pense dans la dernière partie de ce texte ce matin, chapitre 2, versets 1 à 5. Et nous allons voir trois éléments dans ce texte pour ce point assez court. Le premier élément, nous allons voir le message que Dieu donne à son peuple. Nous allons voir la grande tension du côté de Dieu, parce qu'il y a une tension du côté de Dieu, je vais vous expliquer, et puis la réaction du peuple. Premièrement, le message. Or déjà, le messager, un envoyé de Dieu, ou plus précisément, l'ange de l'Éternel, monte de Gilgal à Bokim. Ça vous dit quelque chose, Gilgal, Bokim? Bon, on n'habite pas là-bas. Si je vous avais dit, à Neuchâtel, les Chaux-de-Fonds, ça nous parle. Hein? Puis vous pouvez dire, ah ben il s'est passé certaines choses dans le bas, dans le haut, etc. Bon, d'accord. Puis Gilgal et Bokim? Bon, je vais un peu vous aider parce que c'est important d'avoir un peu ces notions. Hein? Parce que ça nous, même la géographie nous parle dans la Bible. En fait, Gilgal, c'était le lieu du campement d'Israël après la traversée du Jourdain. C'était le quartier général durant la conquête sous Josué, où le peuple était victorieux. C'est le lieu où ils ont refait la Pâque, le lieu où ils se sont rappelés des œuvres puissantes de Dieu. Un lieu qu'on pourrait dire un lieu de bénédiction. L'ange de l'Éternel part de Gilgal et il va à Bokim. Bokim, ça veut dire les pleurs. Vous voyez un petit peu le mouvement? Donc même la géographie enseigne en fait déjà le message. Gilgal, on pourrait dire, donne le ton du livre de Josué et Bokim donne le ton du livre des juges. Alors par le message du messager, Dieu rappelle trois choses aux Israélites. La première, Dieu rappelle sa bienveillance, sa fidélité et sa puissance. C'est ce qu'il fait ici, c'est ce qu'il fait souvent d'ailleurs avec nous, dans toutes circonstances. Regardez au verset 1, où il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères, j'ai dit jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Il rappelle que Dieu est tout-puissant, que rien ne l'arrête, qu'aucun ennemi n'est trop fort pour lui. La sortie d'Égypte est juste impressionnante. Il n'y a aucun problème, il maîtrise. Deuxième élément qu'il dit dans son message, regardez verset 2. « Et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. » Dieu rappelle en fait son exclusivité. Dieu est exclusif. Soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Soit on joue dans son équipe avec ses règles, soit on joue contre son équipe avec d'autres règles. Donc Dieu rappelle sa bienveillance, sa fidélité et sa puissance. Dieu rappelle son exclusivité à son peuple. Et troisièmement, deuxième partie du verset 2 et verset 3, Dieu rappelle les conséquences d'une désobéissance. Il dit, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés. Or le terme ici à vos côtés, on peut aussi le traduire, ils seront un aiguillon. Ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège. Dieu dit la vérité. Les conséquences qu'il annonce vont s'accomplir. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas tout à coup inventé des conséquences. Il s'est dit, oh, il faut que j'invente une conséquence. Non, il les avait avertis avant. Il avait expliqué cela. Par exemple, Josué 23, 12 et 13, qui reprend les paroles de Exode 23 et d'Exode 34, qui dit ceci, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez à elles par des mariages, si vous vous mêlez à elles, » Voilà, le décor est posé. Sachez que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Il l'a dit avant ça. Puis ça, c'est logique. Si vous laissez le cancer, vous allez mourir par le cancer. Si vous laissez la pourriture, vous allez mourir par la pourriture. Vous comprenez? C'est pas simplement, vous avez mal fait, je vais vous punir. Simplement, mais si vous allez dans cette direction-là, vous allez mourir avec ce que vous avez vous-même pris. En passant, par rapport à ces mariages, Ce texte devrait convaincre n'importe quel chrétien sérieux qu'il n'est pas possible de s'unir par mariage entre un chrétien et un non-chrétien en plaisant à Dieu et en étant sous sa bénédiction. C'est juste pas possible. Et ces textes-là sont extrêmement clairs entre l'idolâtrie et non pas l'idolâtrie. Alors si le premier chapitre, notre 20 minutes là, hein, qui parlait de tous ces éléments, de ces combats, etc., semblait dire que le peuple ne pouvait pas conquérir le pays, hein, ils avaient des chairs de fer, ils ne pouvaient pas conquérir le pays, et bien le chapitre 2 dit clairement qu'ils ne le voulaient pas. Vous n'avez pas écouté ma voix. C'est pas qu'ils ne le pouvaient pas, c'est qu'ils ne le voulaient pas. Ils ne voulaient pas obéir au commandement de Dieu. Chacun voulait faire ce qui lui semble bon. Ça vous dit quelque chose, ça? Si vous avez déjà lu une fois les juges, ça vous dit quelque chose. Chacun voulait faire ce qui lui semblait bon religieusement. C'est vraiment ça, quand on parle de chacun voulait faire ce qui est bon religieusement. Hein? Et, en fait, faire ce qui lui semble bon, c'est ne pas éliminer les idoles et tout ce qui peut faire tomber dans l'idolâtrie. C'est ça, en fait. Ça, c'est le message que Dieu donne à son peuple. J'aimerais vous parler maintenant de cette grande tension qu'on voit vers Dieu. Il y a une grande tension dans ce texte ici. En fait, d'une part, Dieu est fidèle à son alliance. Et on le voit au verset 1. Hein, « Je vous ai fait monter du pays d'Égypte, etc. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Et d'autre part, il est dit au verset 3 qu'il ne va pas chasser les Cananéens devant eux. Il y a une tension là. Certains vont dire il y a une contradiction. Non, il y a une tension. Il y a une tension très forte ici. Dieu est compatissant et juste. Il veut pardonner et en même temps il punit les fautes. Il y a une tension là. Et cette tension entre la compassion et la justice de Dieu est toujours plus forte dans le livre des juges. Plus on avance dans le livre, plus on va avoir cette tension qui est extrêmement forte. En même temps, Dieu est compatissant, il veut pardonner à son peuple. Et en même temps, le péché est puni. Il ne peut pas rester impuni. Impossible, Dieu est juste et saint. Mais en même temps, Dieu est plein d'amour, de miséricorde. Comment résoudre cette tension? Mais c'est à la croix que cette tension est résolue. C'est à la croix. En fait, le livre des juges, en nous montrant cette tension, il nous dirige vers la croix. La justice de Dieu est satisfaite. Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il a déversé sur lui sa colère. Justice est faite. Jésus a payé la dette. Et de ce fait, Dieu peut déverser son amour et sa compassion sur celui qui a foi en Christ. Il n'y a plus cette tension. C'est ainsi que Dieu aime et pardonne tout en étant parfaitement juste. La croix, c'est le lieu, et là on voit maintenant quel est l'effet sur nous, c'est le lieu où nous trouvons la liberté sans devenir orgueilleux. Parce que c'est lui qui nous la donne. Mais on reçoit la liberté. Et où nous sommes stimulés à vivre de manière sainte ou saintement sans être écrasés. Donc la croix, c'est le lieu où nous trouvons la liberté sans devenir orgueilleux et où nous sommes stimulés à vivre saintement sans être écrasés. Voilà cette tension que l'on voit dès le début dans les juges, et qu'on verra tout du long, et qui doit nous aider maintenant avec ce que je viens de vous dire, chaque fois qu'on verra cette tension, de dire, Dieu, en fait, préparait, poussait à dire, il faut que cette tension soit réglée. C'est pas possible autrement, c'est pas possible de vivre. Est-ce qu'il va me pardonner ou est-ce qu'il va me juger? S'il me juge, je ne peux pas croire à son amour. Et puis s'il me pardonne sans jugement, je ne peux pas croire à sa justice. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il lui est devenu pécheur à notre place, a payé la dette pour nous. Justice est faite. Et Dieu, par l'œuvre de Christ, manifeste son amour pour nous. Dernier élément, courtement, quelle est la réaction du peuple au message ici, hein, de l'ange de l'Éternel? Eh bien, dès qu'ils entendent le message de l'ange de l'Éternel, le peuple d'Israël, coupable d'un si grand péché, d'avoir fait alliance avec les peuples idolâtres, vous êtes conscient que c'est un grand péché? Ah ouais, théoriquement, c'est sûr, c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on est vraiment conscient dans notre cœur que c'est un grand péché de faire alliance avec les idoles? Que le Seigneur nous permette d'avoir cette notion, pour qu'on puisse réellement vivre ce combat. Hein. Donc, ils sont conscients d'un si grand péché, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à pleurer. La parole de Dieu semble avoir atteint son public. Mais le peuple regrette les conséquences de son péché. Le peuple regrette les conséquences de son péché, que les Cananéens sont encore là, qu'ils ne seront pas chassés. Il ne regrette pas son péché. Il y a des pleurs, mais sans réforme. Il n'est pas dit après qu'ils sont allés éliminer toutes les idoles, etc. Ils ont juste pleuré. C'est inutile. Si vous avez péché, puis que vous pleurez des conséquences de votre péché, bon, on comprend, c'est parfois douloureux, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre d'être libéré de ce péché. Il y a des pleurs sans réforme, des regrets sans repentance, des yeux mouillés sans cœur humilié. Les idoles ne sont pas évacuées, les Cananéens ne sont pas exterminés. Comme un enfant qui regrette la punition que lui avait donnée, mais qui ne va ni nettoyer ce qu'il a souillé, ni se donner la peine de ne plus le faire. Mais il regrette qu'il ne peut plus jouer à la PlayStation pendant 2 heures, pendant 1 semaine. J'en sais rien. Par contre, la raison, il ne la regrette pas. Mais Dieu peut nous délivrer de nos Cananéens. Et nous sommes appelés à mettre notre confiance en lui, à agir comme il le demande. Il a résolu cette tension dans son amour infini et sa justice parfaite à la croix. N'hésitons pas à lui demander pardon et à compter sur ses forces. Très courte conclusion. Le peuple de Dieu va mal lorsqu'il n'obéit pas complètement et qu'il adore d'autres dieux. Et c'est la racine, encore aujourd'hui, de tous nos problèmes personnels et communautaires. C'est la racine de nos problèmes personnels et communautaires. C'est de ne pas obéir complètement à Dieu et d'adorer d'autres dieux. Alors, chers frères et sœurs, vivons l'obéissance et écartons les faux dieux et jouissons de la paix de Dieu. Parce que quand on fait ça, on vit la paix de Dieu. Mais je trouve, j'aime bien dire, vous souvenez du contentement, hein? C'est génial le contentement. Ben alors vivons-le. Le pays promis, la nouvelle identité, cette vie chrétienne en Christ, c'est génial. Alors vivons-le. Et cela est possible lorsqu'on saisit l'œuvre de Christ à la croix et que nous laissons âme humaine, notre ville, être commandée par le général foi qui compte sur la puissance de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, lorsque nous ouvrons ce livre des juges, nous pouvons être effrayés. Parce que nous voyons ce péché terrible, et lorsque nous commençons à saisir et comprendre ce que cela signifie pour nous, eh bien nous ne nous sentons plus du tout au-dessus de ces peuples. Mais nous sommes conscients que nous méritons aussi que tu nous laisses. Nous méritons aussi d'être jugés. Et cette tension que nous voyons dans ce livre de en même temps, cet amour que tu veux manifester, en même temps, cette justice que tu veux pratiquer. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de vivre après la venue de Jésus-Christ. Parce que là, tu as accompli à la croix cette justice et manifesté cet amour. Et nous pouvons aujourd'hui le saisir. Nous pouvons aujourd'hui entrer dans ce cheminement de vivre cette conquête, cette prise de possession de ce que tu nous donnes. Combien souvent nous ne sommes même pas conscients de tout ce que nous avons reçu, de ce beau pays découlant de lait et de miel, alors qu'on continue à manger du pain sec, spirituellement parlant. Seigneur, aide-nous vraiment à saisir ces grâces, à prendre possession de ce pays, et à ne pas avoir peur de mettre à mort tous ces diabolistes, nos Cananéens, qui sont tes ennemis, invétérés, et qui ne se repentiront jamais. Seigneur, nous te remercions parce que tu appelles encore des hommes et des femmes aujourd'hui, et tu nous appelles. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions non seulement entendre ton appel une fois, mais que cet appel continue à résonner dans nos cœurs et dans nos oreilles toute notre vie, afin de nous réjouir de cet appel, d'entrer dans ce que tu désires pour nous. Seigneur, si nous le désirons pour nous, nous le désirons aussi pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne méritons rien de plus. Mais nous désirons qu'ils puissent aussi vivre cette grâce. Seigneur, donne-nous de l'amour aussi, les uns pour les autres. Donne-nous de la détermination. Et lorsque l'un ou l'autre est fatigué de se battre, eh bien que nous puissions l'encourager, l'accompagner. Et que ceux qui ont plus de force mettent au service de ceux qui en ont moins. Seigneur, nous te remercions parce que tu permets que ce soit un temps l'un, un temps l'autre. J'aimerais, Seigneur, te prier de bénir aussi ceux qui passent par des temps plus difficiles, où parfois même la maladie physique nous affecte aussi spirituellement. Seigneur, nous sommes conscients de notre dépendance de toi, et nous voulons te prier de nous donner cette joie de vivre dans le pays promis que tu nous donnes déjà ici-bas, dans les arts qui ont spirituellement, et nous nous réjouissons de vivre un jour dans ce pays promis où nos corps seront renouvelés et nous serons dans l'éternelle félicité. Parce que là, il n'y aura plus de Cananéens. Seigneur, sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.